Renaud Alberni, Dumont-Durville. Le vent, une bise furieuse qui souffle du sud-est, gonfle les voiles de l'astrolabe. Strictement immobile, le vaisseau gémit, mais ne bouge pas d'un pouce. Le blizzard rugit, hunier, perroquet, cacatois semblent vouloir s'arracher de leurs mâts. L'astrolabe crie, mais ne rompt pas. Les rafales tempêtent avec une violence inouïe. L'artimon, le grand mât et la misaine ploient comme des arcs. L'astrolabe hurle, mais reste prisonnier des glaces. Blême, sur la passerelle de commandement, Jules Sébastien Dumont-Durville ne dit pas mot. Poing crispé, lèvres serrées, cou tendu en avant, il fait corps avec son navire. En ce 9 février 1838, voilà 17 ans qu'il navigue sur l'Astrolabe, une gabarre de 380 tonneaux transformée en corvette sur laquelle il a d'abord servi en tant que second, à l'époque où elle s'appelait la Coquille. Cette coquille l'a mené une première fois dans les mers du Sud. Devenu capitaine, Dumont-Durville a fait changer le nom du bateau. Baptisé l'Astrolabe en l'honneur de la Pérouse, la corvette l'a ramené dans les mers du Sud une deuxième fois. Aujourd'hui, couverte de plus de 40 cm de neige et pris par la banquise, l'Astrolabe en est à son troisième voyage dans les mers du Sud. Un voyage qui l'a conduit vers l'extrême sud, le sud du sud, à proximité du cercle polaire antarctique. Grand, sec, cassant, le regard d'un bleu glacé, Dumont-Durville fait confiance à l'astrolabe. Il suffirait que d'un bond, il franchisse la glace qui l'enserre pour que, à quelques brasses de là, il retrouve une mer gelée, mais libre, où il sera possible de naviguer. La force du vent dans les voiles courbe les mâts sans parvenir à dégager le navire. Les craquements, ceux de l'astrolabe et ceux de la banquise, sont de plus en plus violents, de plus en plus sinistres. Le bruit de la tempête est tel qu'il faut hurler pour se faire entendre à bord. Dumont-Durville conserve un silence obstiné. Il ne veut pas encore donner l'ordre de carguer les voiles. Il est déterminé à pousser l'astrolabe jusqu'à l'extrême limite de ses résistances avant de renoncer et de se résigner à hiberner dans l'Antarctique. Le regard fixé sur le cintre des mâts, Dumont-Durville s'accorde encore une minute avant de baisser les bras. Un instant, il fixe son attention sur la Zélée, la corvette qui accompagne l'astrolabe dans cette expédition. À quelques centaines de mètres, toute voile dehors, la Zélée tente également de se libérer de la banquise qui l'a piégée durant la nuit, une courte nuit polaire de 2 heures à peine. Les deux navires, à condition qu'ils ne se brisent pas d'ici là, possède assez de vivres pour tenir 9 mois. La perspective d'un séjour forcé dans cette région inconnue du globe n'enchante guère Dumont-Durville. Épuisé, malade, il n'a qu'une hâte, mettre le cap au nord pour filer vers la Polynésie, retrouver un peu de chaleur et oublier l'échec de sa mission. Oui, l'échec, Dumont-Durville répugne à le penser et encore plus à le dire. Mais il a échoué. Bloqué à une latitude de 63 degrés 23 minutes, il n'est pas parvenu à descendre plus au sud que l'anglais John Weddell, qui, il y a 16 ans, a atteint les 74 degrés 14 minutes. Louis-Philippe, qui avait personnellement tenu a rajouté cet objectif à l'expédition de Dumont-Durville en Océanie, sera déçu. D'ores et déjà, Dumont-Durville est profondément vexé. La rage, une rage glacée au cœur, il songe que ses ennemis, Arago en tête, vont le couvrir de sarcasme et de mépris. D'un poing rageur, Dumont-Durville balaye l'air. Allons, tant pis. La mission a échoué. Le vaisseau est échoué. Tout a échoué. Autant prendre la décision de carguer les voiles avant que le vent n'emporte la mâture. Soudain, dans un craquement inouï, l'astrolabe s'arrache de la banquise. Tendu comme des ressorts, les mâts se redressent violemment, tandis que le vaisseau est littéralement catapulté au-dessus de la glace. L'astrolabe bat de l'aile, mais il vole à une vitesse prodigieuse vers la liberté. Enfermé dans sa cabine, Dumont-Durville, l'air plus renfrogné que jamais, mijote dans son jus. Assis dans une barrique remplie d'eau de mer chauffée, le fier capitaine, toute honte bue, suit scrupuleusement les ordres du médecin du bord, qui ne connaît plus que ce remède pour le soigner de l'affreuse colique qui le ronge depuis des jours et des jours. Tout le monde, officiers et matelots, est malade à bord de l'Astrolabe et de la Zélée en cet automne 1839, alors que les deux navires font route vers Hobart, en Tasmanie. Depuis que les vaisseaux se sont libérés des glaces antarctiques, de l'eau a coulé sous leurs étraves. Valparaiso du Chili, les îles Salomon, Tahiti, les Nouvelles Hébrides, la Nouvelle-Guinée, Java, Singapour, la Nouvelle-Hollande, ainsi que l'on appelle encore l'Australie. Plus de 18 mois de navigation, avec leur plein de fortune de mer, leur lot de désertion et leur paquet d'embrun avant que scorbut et dysenterie ne viennent ravager les équipages. Le nez émergeant à peine de son tonneau fumant, Dumont-Durville se sent totalement ridicule. Même s'il a effectué une ample moisson de données géographiques, astronomiques et cartographiques, même s'il rapporte des caisses et des caisses de spécimens zoologiques, botaniques ou minéralogiques, son expédition est loin d'être couronnée par le succès qu'il imaginait. Arago avait raison. Ce nouveau voyage de Dumont-Durville coûtera cher, durera longtemps et n'apportera aucune découverte à la science. Le capitaine boude dans sa barrique. Du plat de la main, il frappe rageusement l'eau chaude qui éclabousse généreusement alentour. Misérablement prisonnier de son étuve, Dumont-Durville éprouve une humiliation semblable à celle qu'il a vécue alors qu'il était jeune élève à l'école de marine. Il fallait être fou pour s'engager dans la marine en 1807. La marine ? Quelle marine ? La marine française a sombré avec tous ses beaux navires à Trafalgar 2 ans auparavant. Quelques rafiots ont survécu au désastre, mais la suprématie des Anglais sur mer est telle qu'ils ne peuvent se risquer hors des ports. Pendant des mois, Dumont-Durville a appris le métier de marin en faisant des ronds dans la rade de Brest. À défaut de découvrir les grands horizons dont il rêvait, il a découvert l'ennui. Puis, enfin, ce fut sa première grande traversée qui le mena de Brest au Conquet, sans jamais s'éloigner à plus d'un mille des côtes, en cabotant les fesses peureusement serrées. Dumont-Durville trépigne dans son tonneau. Ah ! Qu'on le flanque à la mer et qu'on le laisse dériver en paix ! Jamais il ne se sentira plus à l'abandon qu'aujourd'hui. Croyez-vous que le ministère lui ait adressé le moindre message d'encouragement depuis son départ de Toulon, il y a maintenant plus de 2 ans ? Non ! Bien sûr, pas un mot. Confortablement installés dans leur fauteuil, ces messieurs les ronds de cuir ont bien trop à faire pour penser à cet obscur du mont d'Urville. Indigné, le capitaine bouillonne, agrippé au montant de sa barrique. Sa carrière durant, il a été victime du mépris et de l'ostracisme des imbéciles au pouvoir, qu'ils soient militaires, politiques ou scientifiques. Jamais une marque de reconnaissance, jamais! Qu'on ne vienne pas lui parler des galons qui, à chaque fois, sont venus récompenser ses expéditions, ni des commandements qu'on lui a confiés. Il a dû se battre pour arracher à sa hiérarchie ce strict minimum pour quelqu'un ayant des états de service tels que les siens. Oui, Dumont d'Urville est un grand marin, un grand capitaine, et il ne craint pas de l'affirmer haut et fort. Tant pis si cela déplaît à certains. Bien sûr, en plus de 30 ans de carrière, il n'a participé qu'à 4 grandes campagnes, passant plus de temps à terre qu'en mer. Mais la faute à qui? Si ce n'est à ce ramassis d'incompétents, incapables d'employer les services d'un homme tel que lui. Dressé dans son tonneau, Dumont d'Urville écume, en réglant ses comptes. Tout d'abord, s'il est exact que ce n'est pas lui qui a trouvé la Vénus de Milo, il n'empêche que c'est bien lui qui, au cours de son premier voyage dans les îles grecques, a eu le mérite de reconnaître l'immense valeur artistique de cette statue. Grâce à son intervention, elle repose maintenant au Louvre et Dumont d'Urville attend toujours les remerciements. Ensuite, pour son premier commandement, il a été le premier Français à retrouver, très peu de temps après un aventurier anglais, les traces du naufrage de la Pérouse sur les récifs de Vanikoro. Il a pris sur lui d'ériger une stèle à la mémoire du navigateur disparu. Et Dumont d'Urville attend toujours un signe de reconnaissance. Enfin, en 1830, c'est lui et nul autre qui a commandé le paquebot américain conduisant Charles X vers son exil anglais. Bien évidemment, Dumont d'Urville attend encore qu'on lui rende hommage pour service rendu. Maintenant, ça suffit. Dumont d'Urville en a assez de l'ingratitude, comme il en a assez de cette fichue barrique à la noix dans laquelle il est en train de bouillir. C'est décidé. Il a besoin de se rafraîchir un peu. Cap vers le pôle sud. Sous une pluie de haricots et de riz, Dumont d'Urville, pour une fois vêtu de son grand uniforme, écoute dignement le discours que lui adresse le père Antarctique, juché sur un phoque. C'est la fête de l'Astrolabe en ce 19 janvier 1840. On célèbre à bord le franchissement du cercle polaire. Suivi de la zélée, l'Astrolabe navigue depuis 5 jours entre les icebergs. Sur le pont, les marins se libèrent de leur tension en dansant une joyeuse farandole et en chantant à tue-tête. Terre! Terre! Le cri poussé par l'enseigne de quart fige un instant l'équipage, avant que chacun se précipite vers le bastingage ou grimpe dans les cordages. Installé sur la dunette, Dumont d'Urville écarquille les yeux derrière sa grosse lunette marine, en fouillant avidement l'horizon. Rien, il n'y a rien à voir, si ce n'est un lointain nuage posé bas sur le ciel. Le capitaine, maxillaire saillant et menton dédaigneux, foudroie le malheureux enseigne du regard, puis se détourne pour ne pas l'insulter. Surtout, ne pas exploser un jour comme celui-ci. La tension retombe brutalement à bord. Dumont d'Urville se redresse pour ne pas céder au découragement. L'Astrolabe et la Zélée ont appareillé de Hobart le 1er janvier dernier. Depuis, ils font route vers le sud et viennent d'atteindre une latitude de 66 degrés. Le record de John Weddell est encore loin. Nulle découverte n'est à signaler. Il faut encore continuer à avancer vers le sud. Toujours plus au sud. Au départ de Hobart, les effectifs des deux navires étant réduits à une peau de chagrin, Dumont d'Urville avait songé à laisser la Zélée en Tasmanie et à poursuivre seul son expédition vers l'Antarctique. Jacquinot, son fidèle ami qui commande la Zélée, a tellement insisté pour l'accompagner jusqu'au bout de son périple que Dumont d'Urville a cédé. Il n'a pas fallu longtemps à Jacquinot pour compléter son équipage en embauchant des hommes dans les bouches du port. Dumont d'Urville doit le reconnaître. Il n'a pas à se plaindre des marins de l'une ou l'autre des deux corvettes, que ce soit ceux embarqués il y a 20 jours ou ceux qui le suivent depuis 2 ans et 4 mois, depuis Toulon, tous se montrent enthousiastes malgré les difficultés du voyage. La joyeuse cérémonie d'aujourd'hui en est une nouvelle preuve. Il est certain que la prime et l'avancement promis à chacun ne sont pas étrangers à un tel état d'esprit. N'empêche, Dumont d'Urville est surpris de ne pas avoir entendu de murmures de protestation quand il a annoncé que, au lieu de rentrer directement en France, l'expédition ferait un petit crochet en direction du pôle sud. Pourtant, après l'échec de la première tentative, après les maladies, les tempêtes, les échouages et les sauvages affrontés en Océanie, nul n'aurait été malheureux de retourner chez lui. Dumont d'Urville souffre également du mal du pays. Précisément, sa femme lui manque atrocement. Ou bien, plutôt, il se maudit de ne pas être à ses côtés. À l'escale d'Hobart, il a trouvé 3 lettres de sa chère Adèle. Il n'avait pas de nouvelles d'elle depuis 18 mois. Depuis, un courrier arrivé à Valparaiso lui apprenait la mort soudaine de son fils, le 4e de leurs 5 enfants à mourir en bas âge. Ne reste plus au couple que leur petit Jules, un garçon qui fêtera ses 14 ans cette année, mais que son père connaît à peine. Évidemment, Adèle souffre de chagrin, de désespoir, de solitude. Longtemps, elle a prié pour que son mari revienne à ses côtés. Mais, mois d'attente, après mois d'attente, elle s'est résignée à son éternelle absence. Ses dernières lettres taisent petit à petit sa souffrance. Adèle connaît trop bien son époux. Rien ne le fera revenir avant d'avoir atteint son but. Elle finit même par déclarer admirer sa noblesse de caractère et son abnégation qui le conduisent à poursuivre ses explorations loin, très loin de leur foyer. Une fois pour toutes, Adèle a accepté son mari tel qu'il est. Mieux, animée du souci de sa gloire et de sa réputation, elle lui conseille vivement de se réconcilier avec Arago, pour que son triomphe, une fois rentré en France, ne soit contesté par personne. Terre ! Terre ! Accroché dans les haubans, l'hydrographe du bord tire Dumont d'Urville de ses pensées. Au loin, une terre distincte est bien tranchée. La brise est faible. L'astrolabe et la zélée naviguent au milieu d'immenses icebergs, plus haut que leur mâture. Le soleil bascule derrière une immense falaise de glace dont les contours élevés se découpent dans toute leur pureté. Le spectacle est féerique. Jules Sébastien Dumont d'Urville vient de découvrir la terre Adélie. Note. Les hommes de l'astrolabe et de la zélée ne purent prendre pied sur la terre Adélie que le surlendemain, le 21 janvier 1840. Dumont d'Urville, après avoir solennellement pris possession des lieux au nom de la France, fêta dignement l'événement en ouvrant une bouteille de bon Bordeaux. Nommé contre-amiral à son retour en France, sa disparition le 8 mai 1842 fut absolument tragique. Il périt, brûlé vif, avec sa femme et son fils, dans un accident de train entre Versailles, où il était allé voir les grandes eaux, et Paris. Bloqué dans un wagon aux portes fermées à clé, 59 personnes moururent carbonisées dans cet accident. Finir sa vie dans un train en flammes, cruelle ironie du sort pour un homme qui, comme Dumont d'Urville, est resté prisonnier des glaces. Né le 23 mars 1790, il avait 52 ans. Officiellement reconnue terre française en 1938, la terre Adélie fut tout d'abord rattachée au gouvernement de Madagascar. Ce n'est pourtant pas la porte à côté. Il fallut attendre le 19 mai 1950 pour que des Français embarqués sur le commandant Charcot remettent le pied en terre Adélie 110 ans après Dumont d'Urville. Il est à noter qu'aujourd'hui, le pôle sud magnétique, qui bouge, est légèrement au nord de l'endroit où Dumont d'Urville avait accosté. Fin de la nouvelle de Renaud Alberni, Dumont d'Urville.